Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Guy Barret, bonjour.
Bonjour Benoît.
Vous êtes donc mon invité aujourd'hui, comme vous l'avez été d'ailleurs pour plusieurs précédents ouvrages.
Oui, tout à fait.
Puisque vous êtes, on peut dire, le spécialiste des pèlerinages en France.
Enfin, oui, hein, je ne prétends pas être spécialiste, mais enfin, en tout cas, j'ai écrit un livre effectivement sur les pèlerinages et petits et grands.
Et surtout un site internet, un blog.
Un site internet, oui. Effectivement, qui est, semble-t-il, est très suivi.
Pèlerinage de France.
Pèlerinagedefrance.fr, oui.
Ça a été votre premier ouvrage ?
Ça a été mon premier ouvrage avec une belle préface du cardinal Sarah. Et puis ensuite, eh bien, j'ai été touché par le message de la Vierge Marie à Pellevoisin, et ce qui m'a conduit à écrire un livre sur les messages de la Vierge Marie, centré sur les messages de la Vierge Marie, dans ses apparitions reconnues par l'Église en France et dans le monde, de sorte qu'il y a un chapitre par apparition.
Un ouvrage de 700 pages consacré à toutes les apparitions, on peut dire, depuis les évangiles jusqu'à nos jours.
Oui, hein, tout à fait. Hein,
dans le monde. Vous vous intéressez à la Vierge Marie depuis déjà longtemps.
Oui, c'est exact.
Puisque vous êtes catholique,
tout à fait.
Par conséquent intéressé au sort au statut, surtout, de la Vierge Marie.
Oui, à sa place dans le monde. Et j'ai consacré aussi un livre à la Vierge Marie dans la mission de Jeanne d'Arc.
Oui.
Parce que la place de la Vierge Marie n'était pas très référencée dans les innombrables ouvrages qui ont été consacrés à Jeanne d'Arc.
C'est vrai. Et puis, vous avez consacré naturellement un ouvrage à l'archange par excellence, l'archange Saint-Michel.
L'archange Saint-Michel, le grand protecteur de la France, de l'Italie et du Saint-Siège aussi.
Alors, le dernier ouvrage paru est presque résonne comme une sorte de provocation, puisqu'il s'intitule « Marie Corédemptrice, mère, médiatrice et avocate ».
Oui, alors...
Qu'est-ce qui vous a conduit à explorer... Je dirais cet attribut, cette dignité mariale particulière, remise en cause par certaines autorités vaticanes actuellement.
Oui, alors en fait, ce livre n'a pas du tout de caractère polémique. D'ailleurs, là, ça ne sied pas du tout à la Vierge Marie, ce genre d'approche. C'est un livre qui a été du reste écrit avant la note du cardinal Fernandez.
Voilà, oui.
Cette note qui mettait en garde contre les mauvaises interprétations qui pourraient résulter de l'appellation de la dénomination de l'appellation de ce titre Marie Corédemptrice. Et en fait, le cardinal Fernandez a raison sur ce point. Il faut être vigilant dans l'interprétation. Mais pour autant, ma foi, cette dénomination...
Il ne faut pas pour autant bannir le mot.
Il ne faut pas pour autant bannir le mot.
Même s'il faut le définir et véritablement en faire l'exégèse.
Oui, tout à fait, puisque c'est une appellation qui remonte déjà au XVe siècle, déjà. Donc ça n'est pas récent, et jusqu'à nos jours, puisque Saint-Jean-Paul II l'a utilisé à plusieurs reprises.
Vous pensez à Arnaud de Chartres ou à quelqu'un d'autre ?
Alors, Arnaud de Chartres,
Vous reproduisez des textes admirables.
Il n'a pas utilisé le mot même, mais il en a fait la démonstration.
Ah oui, on le lira tout à l'heure.
Au XIIe siècle.
La couverture est très belle, puisqu'elle fait référence à une fresque.
Une mosaïque.
Le Christ et la Vierge sur un trône.
Oui.
Saint Calixte et Saint Pierre. Les mosaïque du XIIe siècle, l'église Santa Maria in Trastevere, Rome.
Oui, tout à fait. Donc c'est en fait une basilique qui fut probablement le premier lieu où la Sainte Messe fut célébrée ouvertement à Rome. Et sa construction débuta avec le pape Calixte Ier au IIIe siècle. Et c'est une des premières églises dédiées à la Vierge Marie, à l'emplacement d'un miracle. Une source d'huile aurait jailli à cet endroit, annonçant la venue du Messie.
Ce qui est frappant, c'est la représentation
de la
Vierge Marie aux côtés, je ne sais pas si on le voit.
Sur un même trône.
La Vierge Marie couronnée.
C'est ça.
Et surtout... Le Christ Jésus lui mettant la main sur l'épaule sur l'épaule gauche.
Tout à fait. Donc, il enlace sa Sainte Mère. Oui. Et puis, la Sainte Vierge elle-même, par un geste de la main gauche,
oui. Le désigne.
Désigne le Christ. Renvoie au Christ. Oui. Donc, oui. Ce qui montre, en fait, toute l'humilité de la Vierge Marie. Oui.
Et en même temps, leur association.
Et en même temps, leur association intime.
Oui. C'est une fresque, je trouve, absolument magnifique.
Oui, oui, tout à fait. Elle est très parlante, elle est très belle.
Alors, vous avez obtenu une préface de Mgr Schneider.
Oui.
Qui, visiblement, en tout cas, non seulement revendique ce titre de co-rédemptrice,
oui.
mais fait une sorte de panorama de ce qu'ont pu dire non seulement certains saints, mais certains papes. À ce propos.
Oui, tout à fait. Bah, de Pie IX, le livre recense tout ce que les papes ont dit à ce sujet, de manière directe, quasi directe, depuis Pie IX jusqu'à Saint Jean-Paul II.
Le moment, écrit-il, est sans doute venu de prendre véritablement conscience de la plénitude de la mission de la Vierge Marie auprès de son divin Rédempteur. Dans son œuvre salvifique et de sa place éminente, exceptionnelle, absolument unique que Dieu a voulu lui conférer en raison de sa triple maternité.
Oui, maternité divine, puisqu'elle est la mère de Dieu.
Oui. La Théotokos,
comme cela a été reconnu au Concile d'Éphèse en 431. Mère de l'Église, comme le pape Paul VI l'a solennellement proclamé à la fin du Concile Vatican II, et puis mère des hommes, ainsi qu'elle l'est depuis que le Christ, au Golgotha, dans ce moment ultime de sa vie terrestre, lui est signifié d'être la mère de Jean, et Jean son fils. À travers Jean, naturellement, c'est toute l'humanité qui est visée.
Donc une triple maternité.
Triple maternité de la Vierge Marie.
Qu'on peut éclairer à la lumière des quatre dogme Mario, évidemment.
Tout à fait.
Vous écrivez « La jeune Église, sur la base des Saintes Écritures et de la tradition apostolique, contenant le dépôt de la foi, a très tôt confirmé la divinité du Christ et proclamé deux dogmes majeurs concernant Marie, sa maternité divine, en lien avec l'union hypostatique de notre Seigneur Jésus-Christ, et sa virginité perpétuelle. Ce n'est que beaucoup plus récemment, dans un souci de vérité et d'explicitation du dépôt révélé, qu'elle a proclamé deux autres dogmes, son immaculée conception et sa glorieuse assomption au ciel. »
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, justement, de ce développement naturel, je dirais, de la dogmatique en ce qui concerne Marie ? Parce que, autant nous sommes encore unis avec tous les frères séparés, comme on dit, chrétiens séparés, en ce qui concerne, évidemment, la maternité divine.
Tout à fait.
Autant un socle commun. Pour la question de la virginité perpétuelle et surtout l'Immaculée Conception et sur l'Assomption, on a parfois des différences avec non seulement des protestants, mais avec des orthodoxes, non ?
Avec les orthodoxes, pas vraiment.
Pas vraiment.
Non, avec les orthodoxes, Enfin, en ce qui concerne la virginité perpétuelle de la Vierge Marie, et puis Marie Théotokos, Marie Mère de Dieu, il n'y a aucun problème.
Sur l'Assomption, si...
Alors, sur l'Assomption, les orthodoxes n'ont pas la même approche que nous, catholiques, et ne codifient pas, en quelque sorte, cela sous forme de dogmatique. Oui. Mais... comment dirais-je, leur sentiment elle-même. Ils parlent de la dormition de la Vierge Marie plutôt que de son Assomption,
oui.
Mais nous sommes très voisins sur le concept.
Oui, parce que la dormition veut dire qu'elle n'est pas morte.
Exactement, oui. Parfaitement. Oui. Étant Immaculée Conception, étant Mère de Dieu, son corps ne pouvait pas se trouver corrompu.
C'est cela.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu, le Père et Fils, ont tenu à ce que... Elle monte au ciel directement.
Alors, vous commencez votre ouvrage, en réalité, pas du tout par l'étude de ces quatre dogmes, sur lesquels nous reviendrons, mais vous commencez votre ouvrage par un chapitre intitulé « Marie dans les évangiles ».
Oui, parce que finalement...
Parce que ça, on peut dire que ça adresse vraiment le contour.
Oui, tout à fait. La première fois où l'on parle de la Vierge Marie, c'est dans les évangiles, oui. Avec quelques paroles qu'elle a prononcées. Oui. Des paroles très rares, mais justement parce que la Vierge Marie, étant la servante du Seigneur, comme elle l'a dit au moment du jour béni de l'Annonciation, entendait laisser toute la place à son divin Fils, l'unique Rédempteur.
D'ailleurs, vous dites que jusqu'au début de la vie publique de Jésus, Marie ne parle pas.
Parfaitement, oui, tout à fait. Il y a un silence de méditation. La Vierge Marie portait tout cela en son cœur, comme cela est dit dans les évangiles. Elle ne parle pas, et même au moment...
Enfin, elle parle au moment de l'Annonciation, quand même.
Elle parle au moment de l'Annonciation, oui. Mais après...
Qu'il me soit fait selon ta parole.
Et elle le parle de manière absolument sublime. Hein, et puis, je suis la servante du Seigneur, hein, oui. Qu'il me soit fait selon votre parole. Mais après cela, après ce moment béni de l'Annonciation, de son premier fiat, et de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, eh bien, effectivement, comme vous le dites, elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Il n'y a pas de mot de la Vierge Marie qui soit mentionné au moment de la nativité. Elle est dans une adoration silencieuse. Et puis, ensuite, au moment de la vie publique de Jésus, eh bien, ses paroles sont très, très, très peu nombreuses, très, très, très circonstanciées.
Oui, effectivement. Et le moment où on peut dire qu'elle parle à son fils, le premier moment, c'est lors de l'épisode du recouvrement.
Des noces de Cana.
C'est pas le recouvrement de Jésus.
Alors c'est d'abord les noces de Cana.
C'est d'abord les noces de Cana.
Alors les noces de Cana où elle nous délivre un mot absolument essentiel. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est tout un enseignement qui est valable de manière intemporelle et qui traverse le temps.
Parce que il me semble que le recouvrement de Jésus au temple précède les noces de Cana.
Alors le moment
puisque
de...
c'est le moment où Jésus
effectivement
part. On peut dire les délaisse, ne les prévient pas.
Il
part en mission.
Vous avez parfaitement raison.
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
Mon enfant, pourquoi vous as-tu fait cela ?
Vois ton père et moi, nous te cherchions angoissés.
Tout à fait.
Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?
Effectivement, c'est antérieur. Mais
comment expliquez-vous ces paroles alors même que la Vierge Marie est, on peut dire, associée dès avant la création, à l'œuvre du Père.
Oui, tout à fait.
Elle ne devrait pas, en principe, être étonnée du comportement de son fils, non ?
Elle a cherché son fils durant 3 jours, elle était affolée, tout comme Saint Joseph. Oui. Et en fait, elle a réagi à la fois en tant que mère, et puis associée dans le mariage à Saint Joseph. Et puis, à ce moment-là, effectivement, Jésus, à l'âge de 12 ans, la recadre en quelque sorte en lui disant « Ne saviez-vous pas que je dois me consacrer aux affaires de mon père ?»
Il assume le rôle du maître, écrivez-vous, comme il le fera plus tard dans la vie publique en prononçant des paroles qui suscitent l'admiration. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses.
Oui, tout à fait. Donc Jésus, à l'âge de 12 ans, de sa majorité pour ce qui est de la loi juive, prononce ses premières paroles, c'est-à-dire, là encore, c'est tout un enseignement. Je dois être aux affaires de mon père, je dois vaquer aux affaires de mon père, et c'est déjà tout le sens de sa mission qui est révélée là.
Voilà, le mystère au fond de sa personne.
Enfin, voilà.
Mais ma question demeure, vous pensez que la Vierge Marie n'avait pas conscience d'avoir mis au monde Jésus ?
C'est vrai
que les modernistes disent souvent, oui, c'est à ce moment-là que Jésus prend conscience lui-même qu'il est Dieu et que la Vierge Marie commence à comprendre qu'il est Dieu.
Alors,
ça me semble
je crois que,
évidemment totalement invraisemblable.
Je crois qu'ils en ont eu vraiment conscience. Jésus.
Mais la Vierge Marie le savait déjà.
Jésus, parce qu'il est Dieu, oui. Et vrai Dieu et vrai homme, le savait d'emblée, dès l'origine. Et la Vierge Marie, c'est un peu différent. La Vierge Marie, c'est vrai que... Elle prend conscience, en quelque sorte, là, du rôle que son fils va avoir à jouer. Après, c'est pas les paroles que vous venez de rappeler de Jésus. Il nous est dit dans les évangiles, elle prit tout cela en son cœur, elle médita tout cela en son cœur. En quelque sorte, c'est comme un deuxième fiat de la Vierge Marie.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que elle reprend conscience. Elle ne l'a pas perdue, cette conscience, non. Mais je dirais, elle s'était un peu enfouie.
À travers cette attitude,
Jésus... À travers l'enfance de Jésus.
Veut révéler les aspects mystérieux de son intimité avec le Père.
Oui, tout à fait.
Les aspects dont Marie a l'intuition, sans savoir cependant les relier à l'épreuve qu'elle traverse.
Oui.
C'est une parole très belle. Les paroles de Luc, écrivez-vous, nous permettent de connaître la façon dont Marie vit dans son être profond cet épisode véritablement singulier. Elle gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. La mère de Jésus relie les événements au mystère du Fils qui lui a été révélé lors de son annonciation, et elle les approfondit dans le silence de la contemplation en offrant sa collaboration dans l'esprit d'un fiat renouvelé.
Oui, voilà. Tout à fait.
Vous l'avez admirablement
exprimé. Tout à fait. C'est un moment central. Ce sont les premières paroles public et connu de Jésus, et c'est pour nous dire qu'il doit être aux affaires de son Père. C'est le sens de sa mission terrestre, hein, de son incarnation rédemptrice.
C'est magnifique, d'ailleurs vous vous appuyez, pour décrire cela, sur un texte de Jean-Paul II. Il y a de nombreux textes de Jean-Paul II consacrés,
oui,
sur Marie,
tout à fait,
d'une très grande profondeur dont je ne me souvenais pas.
Jean-Paul II a beaucoup approfondi la
théologie
mariale.
Oui, tout à fait. Effectivement. Alors, comprendre la co-rédemption, c'est comprendre avec la raison et le cœur, écrivez-vous, l'ampleur du rôle et de la mission de la Mère de Dieu dans l'économie du salut.
Oui, tout à fait. La Vierge Marie est vraiment coopère à la mission de son divin Fils, à sa place. Elle coopère déjà de manière singulière et hautement significative et incontournable par sa maternité divine. Et puis, elle y coopère de manière continue tout au long de la vie cachée de Jésus, puis de sa vie publique.
Oui, effectivement. Et elle, non seulement, elle est porte, on peut dire, du ciel, mais elle est coopératrice du salut.
Elle est coopératrice du salut. C'est ce que dit Saint Cyril d'Alexandrie lors de son si beau discours au moment du Concile d'Éphèse. Sans vous, dit-il en parlant de la Vierge Marie, les apôtres n'auraient pas prêché aux nations la doctrine du salut. C'est grâce à vous que les créatures, après avoir connu les folies de l'idolâtrie, sont revenues à la connaissance de la vérité. Donc il y a un très beau discours de Saint Cyril d'Alexandrie au moment du Concile d'Éphèse qui met en exergue et en valeur tout ce qui a été permis par la Vierge Marie sans son fiat lors de l'Annonciation. Eh bien, la rédemption ne se serait pas faite parce que, en fait, et c'est là le mystère et la grandeur de Dieu, c'est de laisser toujours la liberté humaine, le primat du libre arbitre humain. C'est-à-dire que Dieu vient solliciter l'homme.
Oui, il se propose il ne fait pas, et l'homme dispose.
Voilà, c'est ça. La rédemption ne s'effectue pas sans les hommes. Dieu a créé l'homme sans vous, mais l'homme ne se sauvera pas sans vous, disait saint Augustin.
Et sans se rattacher au modèle unique qu'est le Christ,
c'est ça,
sauveur,
c'est ça.
Évidemment.
Dieu est relation, disait le père Zundel. Il le montre à tout instant dans le déroulement de son plan salvifique.
Vous avez cité d'ailleurs le père Zundel dans une très belle citation que je vais retrouver. Mais voilà, une très belle citation qui va dans le sens évidemment de ce que nous développons. Maurice Zundel, prêtre et théologien, donc 1897-1975. Rien en Marie ne peut être purifié par la mort. Non, rien en elle ne peut être purifié par la mort. Il n'y a rien en elle à émonder parce que tout en elle est lumière. Il n'y a pas la moindre absence à celui qui est prince de la vie. Elle vit tout entière de lui, il est dans un sens unique sa totale respiration. Si elle meurt, c'est une mort de conformité, c'est une mort corédemptrice. C'est pour entrer à fond dans cette maternité qu'elle exerce à l'égard du genre humain tout entier. Il y aura après cette mort d'amour, après ce suprême offertoire, après cette consommation du mystère rédempteur dans le couple Jésus et Marie, il y aura cette reprise de la vie qui est inévitable, qui est connaturelle, qui est la conséquence intérieure de la maternité même de Marie, qui est de sa personne tout entière, personne née de Jésus, qui est vie éternelle.
Oui.
C'est d'une sublime élévation.
C'est vrai. Et du reste, l'Église, dès les origines, en a pris conscience. Je pense à saint Irénée qui disait que par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Elle est devenue cause de salut.
Est-ce que vous placez la preuve, finalement, la meilleure preuve de cette coopération et de cette co-rédemption qui ne fait pas se substituer Marie à Jésus?
Tout à fait.
Mais qui montre très bien qu'elle elle œuvre avec lui à la rédemption, ce qui n'est pas la même chose.
Oui.
C'est ce que veut dire d'ailleurs le mot « cum ».
Mais oui, « cum » avec.
Oui, exactement.
Absolument. Marie, vous l'avez rappelé tout à l'heure.
Est-ce que un glaive de douleur te transpercera le cœur? Quand le vieillard Siméon s'adresse à elle lors du baptême de Jésus, vous croyez que c'est déjà une preuve de la co-rédemption?
En tout cas,
dans la mesure où ça signifie qu'elle va souffrir, en même temps que souffrira son fils.
Mais oui, vous avez parfaitement raison. Mmh. C'est-à-dire que certains ont dit à juste titre que cette prophétie du vieillard Siméon était comme une seconde annonciation pour la Vierge Marie.
Oui.
Comme une seconde annonciation, parce que le vieillard Siméon lui dit déjà, lui indique comment se déroulera le cours de sa vie et de la mission qu'elle a à accomplir dans la douleur, dans la douleur et la souffrance. Et la Vierge Marie c'est la Vierge des sept douleurs, c'est la Vierge des sept douleurs qu'a évoqué Saint Jean Eudes, qu'a évoqué Bossuet et bien d'autres. Elle est vierge des douleurs, c'est la mère des sept douleurs, tout comme Jésus est l'homme des douleurs annoncé par Isaïe.
C'est la vierge des larmes.
C'est la vierge des larmes. Jésus est l'homme de douleurs annoncé par Isaïe, et la Vierge Marie est mère de douleurs aussi, non seulement au pied de la croix, dans cet instant suprême de souffrance, mais tout au long de sa vie. Parce qu'elle avait prescience, en fait, des souffrances qu'allait endurer son fils, de l'Holocauste qu'il allait devoir subir pour le rachat du genre humain. Et c'est une souffrance immense pour une mère.
Ah bah oui.
Souffrance indescriptible.
Chapitre 9, le magistère de l'Église en faveur de la co-rédemption. Alors là, vous citez à la fois les docteurs et saints de l'Église. Alors, d'une part, saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, sainte Catherine de Sienne, sainte Brigitte, saint Anselme, Bossuet, Alphonse de Liguori, Newman, le père Garrigou-Lagrange, et donc je parlais de Maurice Zundel pour terminer. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement de ces docteurs et saints de l'Église et de ce qu'ils ont pu dire de cette co-rédemption?
Eh bien, saint Albert le Grand disait déjà au XIIe siècle, Marie est l'aide, la coopératrice de la rédemption. Donc les propos sont très clairs. Et saint Thomas d'Aquin, la bienheureuse Vierge Marie, selon qu'elle est mère de Dieu, a en quelque sorte une dignité infinie à cause du bien infini qu'est Dieu. Sa bonne aventure nous délivre aussi des mots en ce sens. Sainte-Catherine de Sienne, vous l'avez rappelé. Alors, Sainte-Catherine de Sienne allait plus loin puisqu'elle parlait de... elle parlait de Marie rédemptrice. Alors, les choses ont été ajustées au XVe siècle en parlant de co-rédemptrice. Oui. C'est vrai que...
Parce que le mot était un peu...
Fort. Le mot était inexact. Sainte-Catherine de Sienne qui nous dit « Ô Marie rédemptrice en un sens du genre humain, la souffrance de ta chair dans le Verbe n'a-t-elle pas sauvé le monde ? Le Christ fut rédempteur par sa passion, toi par le corps, par la douleur du corps et de l'âme. »
Cela dit, je vous fais remarquer qu'elle disait « Ô Marie rédemptrice en un sens ».
Oui, exactement.
En un sens. Donc, c'était pas véritablement une hérésie.
Oui, exactement. Alors, ça a été ajusté en ce sens qu'on a, au XVe siècle, parlé de Marie co-rédemptrice.
Alors, donc, ça, c'est pour Sainte-Catherine de Sienne au XIVe siècle, mais Sainte-Brigitte, dans ce même XIVe siècle, a déclaré, donc, « Comme Adam et Ève ont de conserve vendu le monde pour une pomme, ainsi c'est d'un seul et même cœur que mon fils et moi l'avons racheté. »
Oui, tout à fait, Sainte-Brigitte, une grande sainte. Bossuet va dans le même sens, Saint-Anselme, Bossuet vont dans le même sens.
Saint-Anselme, Dieu a pu créer le monde de rien, mais le monde s'étant par le péché précipité dans la ruine, Dieu n'a pas voulu l'en tirer sans le concours de Marie.
Voilà, c'est ça, c'est très clair.
Hein. Ah, c'est admirablement exprimé.
Tout à fait.
Et enfin Bossuet, que vous aimez tant.
Oui, à juste titre. Bossuet, parce que...
C'est dans les élévations ou c'est dans un sermon?
C'est dans le sermon sur la compassion de la Sainte Vierge.
Oui, d'accord.
L'évêque de Meaux, ne croyez pas que la Sainte Mère de notre Sauveur soit appelée au pied de sa croix pour y assister seulement au supplice de son Fils unique et pour y avoir le cœur déchiré par cet horrible spectacle. Il a des desseins plus hauts de la Providence sur cette mère affligée. C'est la volonté du Père éternel qu'elle soit immolée avec cette victime innocente et attachée à la croix du Sauveur par les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qui s'y accomplit par sa mort. La Vierge Marie, c'est quelque chose de presque surhumain, consent au sacrifice de son divin Fils, parce qu'elle sait qu'il s'agit du rachat de toute l'humanité. Et c'est là qu'elle devient la mère de tous les hommes. Déjà, au pied de la croix, et ceci est consacré par les paroles que lui dira Jésus dans un ultime souffle, avant de rendre son esprit au Seigneur, au Père éternel.
Père éternel, je remets mon âme.
Voilà, c'est ça. Alors, Saint Alphonse de Ligorie va dans le même sens, bien sûr, et puis naturellement...
Donc ça, c'est 17e, 18e siècle.
Oui, c'est ça.
Il est vrai que Jésus voulut être seul à mourir pour le salut des hommes. Seul, dit-il, j'ai foulé le pressoir. Isaïe 53, 3. Mais devant l'ardeur de Marie à vouloir, elle aussi, se consumer pour notre salut, voici ce qui la arrêta. Par le sacrifice et l'offrande de sa vie à lui, Jésus, elle coopérait à notre rédemption et deviendrait ainsi la mère de nos âmes.
C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et voilà, c'est
le rapport qu'on peut dire co-rédemption, maternité.
Voilà,
c'est une nouvelle naissance.
C'est ça, c'est ça.
Nouvelle ère.
Et du reste, dans l'Apocalypse, si on reprend les mots de l'Apocalypse, je retrouvais la...
Vous pensez à cette figure de femme qui va enfanter
dans la douleur, qui enfante dans la douleur. En fait, c'est toute l'humanité qu'elle enfante dans la douleur.
Oui.
Apocalypse 12.
Oui, bien sûr. Rappelons que Radio Courtoisie ne vit que par ses auditeurs et qu'il convient donc de la soutenir.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers auditeurs et auditrices, nous retrouvons donc Guy Barret, l'auteur inspiré, on peut dire, de de ce livre, Marie Corrédemptrice, mère, médiatrice et avocate, préfacé par Mgr Schneider et aux éditions Via Romana. Nous étions en train de parcourir ce que disaient les docteurs et saints de l'Église à propos de la corrédemption et en faveur de la corrédemption. Il nous reste deux auteurs fondamentaux du XIXe siècle et XXe siècle, à savoir le merveilleux cardinal John Henry Newman, docteur de l'Église, depuis d'ailleurs... depuis peu, enfin, depuis, je crois que c'est Benoît XVI qui l'a...
Non, c'est même plus récent.
C'était le pape François ?
Oui, je crois. Oui, oui.
Et je vous laisse nous lire ce magnifique passage.
Oui, alors, il nous dit, en vous entendant l'appeler avec les pères, tout à la fois, mère de Dieu, seconde Ève, mère de tous les vivants, mère de la vie, étoile du matin, nouveau ciel mystique, sceptre de l'orthodoxie, Mère toute immaculée de sainteté, et ainsi de suite, les pères de l'Église auraient jugé que vous rendiez un faible hommage à de telles paroles en refusant de l'appeler corédemptrice.
Donc, ça, on peut dire que ça s'adresse directement.
Est très clair. Hein, c'est des propos très, très clairs. Et le père Garrigou Lagange, qui est un grand théologien, nous disait « Marie, qui a mérité le titre de corédemptrice et celui de médiatrice universelle, est le modèle des âmes réparatrices par ses souffrances au pied de la croix. Par zèle, elle nous a mérité d'un mérite de convenance, fondé sur la charité. Tout ce que le Verbe fait chair nous a mérité en stricte justice. »
Et vous précisez que Saint Pie X et Benoît XV ont ratifié ce titre de corédemptrice.
Oui, Benoît XV, par exemple, a ratifié le titre de corédemptrice en disant que Marie, en union avec le Christ, a racheté le genre humain. C'est ainsi que Marie est ainsi devenue la mère spirituelle de tous les hommes. La mère spirituelle de tous les hommes. Donc, il est évident qu'elle a une grande part, une part unique et exceptionnelle à l'œuvre de rachat du genre humain.
Donc, vous considérez en tout cas que non seulement les docteurs et pères de l'Église, mais on peut dire le magistère des papes, témoignent de cette affirmation.
Oui, on va
de la corrédemption.
Tout à fait. Ben on va évoquer quelques propos des papes depuis Pie IX jusqu'à
Pie II.
Et même Jean-Paul II.
Et même Jean-Paul II.
Le pape Pie IX nous disait « Nous réaffirmons ensuite notre plus ferme espérance en la très sainte Vierge, qui, toute belle et immaculée, a écrasé la tête du venimeux serpent le plus cruel et a apporté le salut au monde. » Et à apporter le salut au monde. Et quant au pape Léon XIII, en sa septième encyclique sur le rosaire, Fucunda Semper Expectatione, du 8 septembre 1894, nous dit « Car dans le rosaire, tout le rôle de Marie a joué comme notre co-rédemptrice, nous est présenté comme si les faits se déroulaient encore, et cela profite grandement à notre piété, que ce soit dans la contemplation des saints mystères ou dans les prières que nous récitons et répétons. » Donc voilà ce que nous disait le...
Il l'a répété à plusieurs reprises.
Il l'a répété à plusieurs reprises, puisque c'est le pape du Saint-Rosaire.
Non, mais le pape Saint-Pie X, évidemment, on ne s'étonnera pas qu'il ait lui aussi repris ce...
Alors le pape Saint-Pie X l'a repris, bien sûr.
Cette dénomination.
Je cite juste un extrait très court. « La conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, c'est que Marie mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue. » La réparatrice de l'humanité déchue. Oui.
Alors peut-être un mot de Pie XI.
Alors,
parce que Pie XI n'a pas... Enfin, oui, Pie XI a été très explicite sur le sujet.
Pie
XI et Pie XII.
Je voulais souligner quand même un point que je trouve qui est non négligeable.
Oui.
C'est qu'au cours du même pontificat, un décret du Saint-Office du 26 juin 1913 a encouragé l'habitude d'ajouter au nom de Jésus celui de sa mère, notre co-rédemptrice, la bienheureuse Vierge Marie. Donc il y a un encouragement du Saint-Office en 1913 en ce sens.
Oui.
Et de plus, cette congrégation a accordé le 22 janvier 1914 une indulgence pour la récitation de l'oraison dans laquelle Marie est appelée co-rédemptrice du genre humain.
Oui.
Ça, c'est quand même quelque chose de majeur.
Ah oui.
On ne peut pas le passer sous silence. Voilà.
Alors pour Pie XI,
on
ne va pas citer toutes les citations, parce qu'il y en a beaucoup.
Oui, oui. Pillon, ce qui nous dit...
Mais au moins, on peut citer cette citation du 29 avril 1935, lors du radio-message aux pèlerins de Lourdes.
Oui, hein, tout à fait. Au maire de piété et de miséricorde, qui assistiez votre doux fils tandis qu'il accomplissait sur l'autel de la croix la rédemption du genre humain, comme co-rédemptrice et associée de ses douleurs, conservez en nous et accroissez chaque jour, nous vous en prions, les précieux fruits de sa rédemption et de votre compassion. Il y a d'autres mots en ce sens du papillon qui sont dans ce livre. Voilà.
Alors Pie XII, bon, Pie XII en a parlé à plusieurs reprises lui aussi.
Oui, c'est ça. Par exemple, dans son encyclique Incrementum Malorum de 1951, oui. Tournez-vous avec plus de confiance, vers la Mère de Dieu. C'est là que le peuple chrétien a toujours cherché refuge suprême à l'heure du danger, car elle a établi cause de notre salut pour tout le genre humain. Bon, c'est la citation de Saint-Irénée, bien connue. Oui. Voilà. Mais il y a d'autres textes, par exemple, Ad Coeli Reginam du pape Pion dans son encyclique de 54 sur la royauté de la Bienheureuse Vierge Marie qui vont dans le même sens.
Alors vous expliquez que le concile est un petit peu en retrait de cette doctrine
Alors,
mariale.
Le concile est un peu en retrait en ce sens que, alors qu'un nombre significatif de pères conciliaires souhaitaient que ce dogme soit, à l'occasion du concile, reconnu comme tel, comme dogme, cela n'a pas été le cas. Mais néanmoins, il y a de très belles formules, de très beaux passages dans l'Omen Gentium sur la Vierge Marie.
Après l'Assomption au ciel, voilà. Son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession multiple, elle continue à nous obtenir des dons qui assurent notre salut éternel.
Voilà, alors ça va.
Par exemple.
Ouais, c'est sûr, il est certain que ça ne va pas aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter, que beaucoup auraient pu le souhaiter. Et donc, par exemple, le professeur de Mattei a parlé de minimalisme marial à cette époque-là. Mais, comment dirais-je, en quelque sorte, le pape Paul VI s'est en quelque sorte repris à la fin du concile en proclamant Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église, elle l'est depuis le Golgotha.
C'est ça.
Et vous voyez, ça n'a été reconnu officiellement par l'Église qu'en 1964, mais elle est mère de l'Église dès l'origine. Elle est la première à avoir cru, elle est la première...
Elle est non seulement la mère de l'Église, mais elle est notre mère déjà.
Elle est notre mère.
Puisque c'est ce qui se passe avec Saint Jean, notamment.
Oui, elle est notre mère, tout à fait. Elle a présidé à la naissance de l'Église, entre l'Ascension et la Pentecôte. Donc, la Vierge Marie est mère de l'Église depuis ce moment-là. Mais, voilà, ça n'a, encore une fois, l'Église, des fois, prend beaucoup de temps pour reconnaître les choses. Remarquez bien qu'il en a été de même lors de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, puisque ce dogme n'a été reconnu qu'en 1854.
Alors que c'était déjà dans la foi.
Que c'était dans la, voilà. Déjà dans la foi.
Dans la foi de l'Église,
constamment. Voilà, mais
alors
ça,
le pape Jean-Paul II aura énormément de citations, aura énormément de textes, de prises de parole auprès des malades. Au sein de ses encycliques.
Enfin, oui, il a... tout à fait. Bah, dans plusieurs,
il a constamment parlé de la rédemption due à Marie,
en même temps
qu'à Jésus.
Il en a parlé de manière explicite lors de plusieurs audiences générales, par exemple celle du 8 septembre 1982. Marie, bien que conçue et née sans la tâche du péché, a participé de manière admirable aux souffrances de son divin Fils pour être la co-rédemptrice de l'humanité.
Vous voyez, ce qui m'étonne en la relisant, c'est qu'on aurait pu dire Marie, parce que conçue et née sans la tâche du péché.
Oui, bien
que. Vous ne croyez pas ?
Alors, Louis,
il
nous dit bien que.
Est-ce que c'est bien traduit ? Non ?
Oui, c'est bien, c'est bien traduit. Enfin, c'est le texte du Vatican que j'ai repris.
Oui.
Mais en tout cas, oui, c'est bien traduit. C'est ce qui veut dire par là que. Enfin, le Saint Jean-Paul II veut nous dire par là.
Oui, parce que comme elle était épargnée du péché,
elle n'aurait pas dû prendre sur elle. Comme Jésus, qui est exempt de tout péché. Oui. A pris sur l'humanité, sur lui, tous les péchés
de
l'humanité.
C'est tout le mystère, effectivement, du mal, d'une certaine manière.
C'est en cela, d'ailleurs, aussi qu'elle est co-rédemptrice, parce que, bien qu'Immaculée Conception, elle a pris, elle a subi le poids du péché, de nos péchés.
Elle a accepté, voilà, de s'abaisser, si j'ose dire. Enfin, de...
Oui, c'est ça. Comme disait le prophète Isaïe, elle a porté, Jésus a porté le poids de tous nos péchés, mais la Vierge Marie aussi. Oui. C'est ce que veut dire, nous dire Saint Jean-Paul II.
Bien sûr. Et... Ouais. Oui, la venue de Marie dans le monde est le commencement de l'avant salvifique, en 83.
Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et... L'Immaculée Conception est ce grand mystère marial par lequel commence dans l'histoire la rédemption de l'homme, dans l'Angélus du 8 décembre 1983.
C'est ça. Et puis, lors de son homélie du 31 janvier 1985 au sanctuaire de Notre-Dame de l'Aurora, Guayaquil, votre oui à l'Annonciation signifiait à la fois son acceptation de la maternité qui lui était proposée et l'engagement de Marie dans le mystère de la rédemption. C'était l'œuvre de son Fils, mais la participation de Marie était réelle et efficace. En donnant son consentement au message de l'ange, Marie a accepté de collaborer à toute l'œuvre de réconciliation de l'humanité avec Dieu. Au calvaire, là aussi, acceptant et assistant au sacrifice de son Fils, Marie est l'aurore de la rédemption. Et là, son Fils nous la donnera pour mère. Le rôle co-rédempteur de Marie n'a pas cessé avec la glorification de son Fils, ajoute Jean-Paul II.
Oui.
Vous voyez, hein, donc ces propos sont très clairs. Et,
Je fais exprès d'insister sur l'enseignement récent, c'est-à-dire du magistère, parce qu'on a tendance à faire comme si... Finalement, il y a eu peut-être deux ou trois allusions du temps de Pie XII papes antérieurs au Concile, ce qui est complètement faux.
Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas seulement des papes antérieurs au Concile, mais...
Et même jusqu'à Benoît XVI.
Et même jusqu'à Benoît XVI, dans une certaine mesure. En tout cas, il n'était pas favorable lui-même au titre. Enfin, il a marqué des réserves. Mais il n'a pas rejeté et il a conclu à la nécessité de poursuivre la réflexion.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites suivre cet énoncé des raisons de nous rallier à cette magnifique dévotion à Marie Corédemptrice. Vous faites suivre cela par un texte de Saint Jean Eudes sur les sept glaives, mais auparavant, vous réaffirmez les fiat, les différents fiat de Marie. Est-ce que vous pouvez simplement nous les énoncer, ces fiat de Marie? Alors, on a parlé de l'Annonciation.
L'Annonciation. Alors, en quelque sorte, il y a un deuxième fiat que l'on évoquait tout à l'heure, au moment de la recouvrement de Jésus au Temple. Oui. Et là, la Vierge Marie, en quelque sorte, reprend conscience de la mission de son divin Fils et portant tout cela en son cœur, elle en accepte l'augure.
Le troisième flat.
Et le troisième fiat, c'est au pied de la croix.
C'est Cana.
Non, c'est pas Cana. C'est au pied de la croix.
Au pied de la croix.
Au pied de la croix, la Vierge Marie, se fait mère de toute l'humanité.
Oui.
Elle se fait véritablement co-rédemptrice.
Oui. Oui. D'ailleurs, Jésus la désigne comme telle.
Jésus la désigne comme telle. C'est vraiment son ultime testament en tant que de sa vie terrestre. Avant sa résurrection.
Et donc, oui, je parlais de ces fiat parce que je voulais les mettre en relation avec les sept glaives dont parle cet immense Saint Jean Eudes, dont on ne parle pas beaucoup, qui a eu justement développé cette dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie avant beaucoup.
Avant beaucoup. Alors, Saint François de Sales en a parlé explicitement dans une lettre à Sainte Jeanne de Chantal. Il a parlé en parlant de la création de l'ordre de la Visitation, il a parlé de ces deux cœurs qui ne faisaient qu'un. Qui ne faisaient qu'un parce qu'ils étaient unis dans une même volonté.
Oui.
Unis dans une même volonté. C'est tout le développement de la théologie de Saint Jean Eudes, c'est de nous montrer que ces deux cœurs avaient une même pensée, un même regard tourné vers Dieu, une même volonté salvifique.
C'est ça.
Et voilà. Du reste, le dossier de Saint Jean-Eudes est en cours de postulation en tant que docteur de l'Église, mais C'est véritablement un grand saint, à la fois marial et christique, puisqu'il a fait dire une messe au cœur, oui. au Sacré-Cœur de Jésus, une première messe au cœur immaculé de Marie. Et du reste, en Bourgogne, c'est aussi en Bourgogne qu'est apparu le Christ en tant que Sacré-Cœur.
Oui, bah oui, appareil monial.
Oui. Donc, vous voyez, il y a là une filiation.
C'est pour ça que je disais que Saint Jean Eudes est un peu le... Bon, vous me disiez que Saint François de Sales l'avait fait avant, mais il est quand même vraiment l'apôtre du cœur.
Il est l'apôtre des deux cœurs unis. L'apôtre des deux cœurs unis, tout à fait.
Vous écrivez d'ailleurs, Saint Jean Eudes le souligne avec force... C'est l'amour ineffable de Marie pour son fils Jésus qui a transpercé ce cœur incomparable de cette glaive de douleur très aiguë et très pénétrant au temps historique de la Passion,
oui.
qu'il associe forcément à l'œuvre donc de la rédemption. Et quelles sont ces sept glaives? Premier glaive, c'est lorsque son fils bien-aimé lui dit le dernier et douloureux adieu, étant prêt d'aller à la croix et à la mort. Le second glaive est lorsque l'on apporte à cette mère désolée de tristes nouvelles du commencement de la passion de son cher enfant.
Oui.
Le troisième glaive de douleur est lorsque cette douloureuse mère étant présente à la très cruelle flagellation de son fils, ainsi qu'elle l'a révélé à Sainte Brigitte, elle le vit environné de plusieurs bourreaux qui déchargèrent une grêle de coups de fouet sur son sein corps avec autant de fureur qu'il demeura tout baigné dans son sang et tout couvert de plaies depuis les pieds jusqu'à la tête. Le quatrième glaive de douleur est lorsque cette mère affligée voit son fils bien-aimé revêtu d'une vieille robe de pourpre par moquerie, ayant un roseau à la main au lieu de sceptre par dérision et portant une cruelle couronne d'épines. Le cinquième glaive de douleur est lorsque cette lamentable mère, rencontrant son fils chargé d'une longue et pesante croix et allant au calvaire, elle est saisie d'une douleur si pénétrante et si violente qu'elle tombe, pâmée et presque morte, en place. Le sixième glaive est lorsque la reine du ciel voit son fils bien-aimé attaché à la croix ayant les pieds et les mains transpercés de gros clous et qu'elle le voit souffrant, agonisant. Je précise que je résume, hein, que ce sont des textes qui sont beaucoup plus développés et magnifiques d'ailleurs. Le septième glaive de douleur est lorsqu'à la descente de la croix, elle le reçoit dans ses bras et qu'elle voit de ses yeux et touche de ses mains les plaies de son Jésus, encore toutes sanglantes.
L'homme de douleur, disait Saint Isaïe. Oui, tout à fait.
C'est très beau d'avoir repris cet énoncé de Saint Jean Eudes.
Oui, tout à fait. Un grand saint qui a été suivi d'un autre grand saint, c'est Maximilien Kolbe, qui allait dans le même sens.
Vous savez d'où vient ce texte de Saint Jean Eudes, justement? C'est dans le cœur admirable.
C'est dans le cœur admirable de la très sainte Mère de Dieu.
D'accord, de la très sainte Mère de Dieu.
Oui,
ça donnera quelques idées de lecture à nos auditeurs et auditrices.
Des textes majeurs. Oui.
Voilà. Alors, écoutez, cher Guy, comme il ne reste pas beaucoup de temps. Et que vous avez vu que j'avais fait beaucoup de petites réservations, je voulais lire pas mal de choses. Est-ce que vous voulez aborder vous-même d'autres aspects, peut-être des aspects plus actuels, hein, qui montrent en quoi cette particulière dévotion à Marie Corrédemptrice peut aider notre temps à se sortir de ces démons?
Oui,
et Dieu sait si ces démons l'on règne en maître aujourd'hui.
Oui, on sait que dès la Genèse, hein, les choses sont indiquées dès la Genèse. Hein, je reprends les termes de la Genèse.
Sur le fait qu'elle écrasera
Serpent. Elle écrasera de son talon le serpent.
Ben oui.
Donc tout ça, c'est indiqué dès la Genèse.
Donc ça, c'est d'actualité, forcément.
Et puis, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il nous est redit, au chapitre 12, la Vierge entourée de 12 étoiles qui enfante dans la douleur. En fait, c'est nous qu'elle enfante dans la douleur. Pour notre propre rachat, le rachat de nos péchés. Et donc, évidemment, c'est en cela qu'elle est corédemptrice. Parce que, aussi vrai que la Vierge Marie n'a pas enfanté dans la douleur son divin fils, aussi vrai, nous enfante-t-elle dans la douleur aujourd'hui, enfante-t-elle tous ses enfants, c'est-à-dire toute l'humanité, dans la douleur. Dans la douleur, puisqu'il s'agit de nous arracher chacun
au
péché.
Comme l'écrit Sainte Thérèse de Calcutta, Mère Thérèse, de grandes grâces sont appelées à venir de cette reconnaissance, ça répond à la question que je vous posais, et définition papale de Marie corédemptrice, médiatrice et avocate.
Oui, elle a expressément demandé.
Aussi, il appartient maintenant à l'Église du Christ, à ses membres religieux et laïcs, de contribuer chacun à sa place à œuvrer pour cette définition papale de Marie corédemptrice, médiatrice et avocate. Il appartient à chaque membre de l'Église de contribuer à ce que, à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphe, comme prédit par la Sainte Vierge à Fatima, et à ce que le maximum d'âmes soit sauvé de l'éternelle damnation. En ce temps que nous vivons, là je vous cite, il revient, ce faisant, à l'Église catholique de couronner à nouveau, très solennellement, la très Sainte Vierge Marie en lui décernant le titre qui lui revient de corédemptrice, médiatrice et avocate. Le titre de corédemptrice, s'il convient à Marie, ne saurait être un titre de plus. Il est le titre par excellence, celui qui donne un sens à tous les autres.
Oui, ainsi que le soulignait l'abbé Guillaume de Maintière, qui est un excellent théologien dans un de ses ouvrages. C'est le titre par excellence qui couronne et magnifie les quatre dogmes existants.
Oui. C'est d'ailleurs assez étrange de voir qu'effectivement, là, on vient dans le développement organique du dogme. C'est vraiment dans l'esprit du cardinal Newman, qui n'est pas un développement progressiste, moderniste, mais parce qu'on aurait pu vous dire, mais bon sang, puisque c'est le fondement même des autres dogmes, à la limite, on aurait pu penser qu'il aurait fallu le proclamer plutôt avant les autres.
Et presque avant,
pour comprendre finalement ce dogme de la corédemption, il faut avoir compris tous les autres.
Il faut avoir compris tous les autres. Et on comprend d'autant mieux le dogme de l'Immaculée Conception, on comprend d'autant mieux le dogme de l'Assomption, que l'on prend conscience que Marie est véritablement corédemptrice. Alors, elle est corédemptrice, il faut l'expliciter de manière convenable, et c'est ça tout le sens d'une définition dogmatique par le Saint-Père, tout le sens d'une définition dogmatique, c'est d'expliciter le sens des mots afin qu'il n'y ait pas de confusion, cette confusion que redoutait le cardinal Fernandez. Donc, il faut vraiment l'expliciter de manière... Et donc là, il faut distinguer à la fois l'être et l'agir. Oui. Jésus est l'unique rédempteur du monde, et la Vierge Marie, dans son agir, est co-rédemptrice auprès de son divin fils.
C'est ça.
C'est une question d'explicitation
oui,
des
bien
termes.
Bien sûr.
De manière qu'il n'y ait pas de confusion.
C'est très important.
Voilà, c'est tout, et c'est le sens d'ailleurs de tout dogme, il faut les expliciter. Les quatre dogmes précédents ont nécessité une explicitation, ont suscité des débats, tous.
Vous écrivez ce dogme, la proclamation de ce dogme permettrait aux fidèles actuels de mieux appréhender, comprendre et saisir la place et le rôle suréminent, exceptionnel, unique de la Sainte Vierge dans l'économie du salut en ce temps marqué par une crise sans précédent de la foi, de la famille, de la morale et d'atteintes gravissimes à la vie, à la paix, susceptible de conduire à une troisième guerre mondiale. L'amour infini du Père éternel passe par nous les hommes, par notre Seigneur Jésus-Christ et par la très Sainte Vierge Marie, passe par leurs deux cœurs unis. L'amour de la Vierge Marie pour ses enfants est un amour qui tient directement de Dieu, intimement corrélé à Dieu, dont elle est le fruit le plus beau, le plus sublime, le plus parfait de toute la création divine. L'amour de la Vierge Marie pour ses enfants est ainsi un amour infini, d'une force, d'une puissance irrésistible, incommensurable. C'est en quoi elle manifeste qu'elle est corédemptrice.
Tout à fait.
C'est une proclamation magnifique vous avez faite.
Tout à fait. Tout à fait, c'est admirable. Et elle est plus que jamais notre salut dans les temps qui sont les nôtres.
Alors, je précise que votre livre s'achève par des annexes, qui sont des annexes absolument magnifiques, spirituelles, de différentes prières, prières mariales qui commencent dès le IIIe siècle avec le Subtum Presidium, hein, oui, sous l'abri de ta miséricorde, oui. La prière de Saint Fulbert de Chartres, que vous découvrirez, une prière d'intercession, le souvenez-vous de Saint Bernard de Clairvaux,
c'est cela.
L'autre prière, ô notre médiatrice, de Bernard de Clairvaux, d'autres prières de Bernard de Clairvaux, et enfin, vous achevez avec la prière de Saint Vincent Ferrier, pour la fête de l'Assomption, oui. La prière de consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
oui.
Autre éminente auteur marial, et enfin, la prière de Saint Padre Pio.
Oui.
Donc on peut dire que vraiment votre livre s'ancre à la fois dans la théologie, l'enseignement de l'Église, l'enseignement des pères, l'enseignement des saints, et on peut dire la spiritualité tout oui. simplement chrétienne.
Oui, tout à fait. Il est les auteurs exclusivement fondé sur les saintes écritures, le magistère de l'Église, et des saints papes, des papes, et puis des saints et docteurs de l'Église, absolument.
Alors, je rappelle que mon invité était aujourd'hui donc Guy Barret, qui nous a entretenu de son livre « Marie Corédemptrice, mère, médiatrice et avocate », préfacé par Mgr Schneider, aux éditions Via Romana, et qu'il avait en fait rédigé très peu auparavant un magnifique ouvrage sur le voile de Marie de Chartres, le voile de Chartres.
Oui, tout à fait.
Un livre publié aux éditions Via Romana, et qui s'intitule « Chartres, Arche d'Alliance et Reliquaire du voile de Marie ». Merci beaucoup, Guy Barret.
Merci, cher Benoît, merci, chers amis auditeurs. Et puis j'encourage tout le monde vraiment à prier la Vierge Marie voilà. De manière intensive.
Et puis, à découvrir
cette la dimension de, oui. de toute la dimension salvifique de la Vierge Marie qui... Et parfois encore trop méconnu.
Merci beaucoup Guy Barret, et à très bientôt, chers auditeurs.
Venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 24 juin 2026, de 10h à 11h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.